Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, 15 personnes en garde à vue 7 mois après le naufrage qui avait coûté la vie à 27 migrants dans la Manche. Info RTL, signé Thomas Proutot. On viendra aussi sur l'élection de l'insoumis Éric Coquerel à la tête de la commission des finances à l'Assemblée. Ça y est, c'est fait. Et puis Lewis Hamilton, lui, pourrait bien être privé du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne. Tout ça, figurez-vous, à cause d'une histoire de bijoux.
Nos deux sujets du jour, le Covid et la nouvelle vague qui ne gâchera pas notre été. C'est ce que disait ce matin sur RTL Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Et à 12h50, la bataille pour la présidence de la Commission des finances, Éric Woerth, qui ne souhaitait pas qu'elle revienne à la France insoumise, sera l'invité de RTL Midi.
Notre question du jour sur RTL.fr, nouvelle vague de Covid, êtes-vous inquiet pour cet été? Vous dites non à 56%, oui, à 39%. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, c'est vraiment pas terrible, non?
Oui,
non.
Je vous l'accorde, c'est
pas
vrai.
Terrible.
C'est bien pluvieux entre l'Aquitaine et les Hauts-de-France. À l'ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircis et averses, mais on attend une belle amélioration cet après-midi sur la façade atlantique. En revanche, à l'est, avec la chaleur, attention aux orages localement forts. 11 départements sont en vigilance orange entre le centre-est et le nord-est, et seule la Méditerranée et la Corse ont du beau temps. Et les températures, elles sont en baisse à l'ouest de 15 à 20 degrés et encore élevées à l'est de 27 à 31 degrés.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette information, RTL, 7 mois après le naufrage dramatique qui avait fait 27 morts dans la Manche, 15 personnes sont en garde à vue, 13 hommes et 2 femmes, dont une majorité d'Afghans, Thomas Proutot.
Oui, tous sont suspectés d'avoir participé à l'organisation de cette traversée mortelle qui a coûté la vie notamment à un enfant et une femme enceinte. Certains comme chauffeurs pour convoyer les familles de migrants depuis Nice, leur point d'arrivée en France, d'autres comme hébergeurs sur la route, d'autres enfin pour avoir acheté en Allemagne le canot pneumatique utilisé pour la traversée. Parmi eux également des têtes de réseau présumées chefs de la filière qui a facturé le passage vers l'Angleterre pour plusieurs milliers d'euros. L'enquête des policiers de l'OCRIEST, l'Office de lutte contre l'immigration irrégulière, spécialisé dans la traite des êtres humains et les réseaux, a été longue et complexe. Il a fallu reconstituer notamment grâce à la téléphonie la présence aux endroits clés des suspects, notamment sur le rivage, à Lousplage, la veille du naufrage. Illustration de ces difficultés, on vient de l'apprendre. Seuls 10 suspects vont être présentés dans la journée à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. 5 autres ont été relâchés sans poursuite à ce stade.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Dans l'actualité également, le verdict au procès des attentats du 13 novembre.
Et cette scène assez stupéfiante racontée ce matin sur RTL par Arthur Desnouveau, l'un des rescapés du Bataclan. Tous les acteurs du procès se sont retrouvés hier soir, victimes, avocats, mais aussi certains accusés.
Il y avait les accusés libres, ceux qui sont ressortis libres. Il y avait leurs avocats, il y avait les avocats de partie civile, il y avait des parties civiles. Tout le monde s'est retrouvé dans la brasserie en face du palais de justice, entre gens libres. Et c'était un moment très étrange, un peu suspendu hors du temps. Et je crois que ça montrait aussi l'empathie qui a été générée par ce procès. Moi, je ne les ai pas pris dans les bras, mais j'ai vu beaucoup de parties civiles le faire et ça ne me choquait pas. Moi, je leur ai serré la main et je leur ai souhaité bonne chance pour la vie qui s'offrait à eux. Et eux m'ont dit, écoutez, on vous a tous entendu, vous les victimes, bonne chance à vous. C'est aussi ça la force d'un procès d'assises, c'est que c'est une cérémonie de parole. On s'est écoutés les uns les autres, on a parlé et nous, on n'a pas eu à les juger. C'est des juges qui l'ont fait. Et donc, s'ils sont libres, ce n'est pas notre choix. Donc il faut l'accepter de toute façon, c'est ça la démocratie.
Arthur Desnouveau, le président de l'association de victimes Life for Paris sur RTL ce matin avec Yves Calvi. Bonjour Anne Le Hénaff.
Bonjour.
La scène qu'on vient d'entendre est pour le moins étonnante, choquante, diront certains, admirable, diront d'autres. Ce qui est sûr, c'est que les prochains jours vont être très importants, et ce pour toutes les victimes.
Hein. Oui, certains le disaient avant même ce verdict. Le soulagement général d'atteindre enfin la fin de ces 10 mois d'audience va laisser la place à quoi ? Tant ce procès a été pour elle, en tout cas pour celle avec qui on a pu discuter, un long moment hors sol, si intense, si riche, une espèce de bulle, même si elle n'a pas toujours été joyeuse. Il y a une interrogation assez unanime sur de quoi va être fait l'après. Interrogation partagée par la psychologue Carole Damiani, présidente de l'association Paris Aide aux Victimes, au micro RTL de Cindy Hubert.
Elles sont restées pendant plusieurs mois ensemble, elles se sont soutenues les unes les autres, et certains sont devenus addicts à ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que plus rien ne comptait que de se retrouver dans ce lieu. Toute leur énergie était tendue sur ce qui pouvait se faire et se dire dans les audiences, et donc elles craignent vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Il peut y avoir des passages à l'acte, que ce soit contre soi, que ce soit contre les autres, c'est un risque qu'il ne faut pas négliger.
Il y a aussi des parties civiles qu'on n'a jamais vues à ce procès. Des groupes de parole vont être activés pour les soutenir et les aider.
Et pour les accusés, on ne sait toujours pas si Salah Abdeslam va faire appel.
Non, il a 10 jours pour le faire. Ses avocats vont en discuter avec lui. Comme il a écopé de la peine la plus lourde possible, en fait, il n'a rien à perdre à faire appel. C'est donc assez probable. Mais avant cet éventuel appel, il sera jugé en Belgique pour les attentats de Bruxelles. 9 mois de procès prévus à l'automne.
Et les autres, Anne ?
Alors, plusieurs vont purger leur peine. Les 3 qui comparaissaient libres ne retournent donc pas en prison. La peine est couverte par leur détention provisoire. Et il y a 3 autres condamnés qui ont écopé de peine de quelques années, qui vont eux aussi pouvoir sortir dans les prochains jours.
Merci à vous Anne Le Hénaff pour toutes ces explications. Autre procès, c'est celui de Dino Scala, le violeur de la Sambre. Le parquet a requis ce matin 20 ans de prison contre ce sexagénaire qui est accusé, on le rappelle, d'avoir violé ou tenté de violer 56 femmes au moins entre 1988 et 2018.
C'était sans doute l'un des postes les plus convoités de la nouvelle Assemblée nationale.
Éric Coquerel est finalement élu président de la Commission des Finances. Ça n'a pas été une simple formalité, Marie-Bénédicte Teller.
Non, et le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis aura été sur des charbons ardents. Le vote se déroule à huis clos, à bulletin secret et par tradition. Les députés de la majorité ne participent pas puisque cette commission est réservée à l'opposition. Premier tour, chacun des 4 candidats fait le plein des voix de son camp. Éric Coquerel, candidat unique de la NUP, arrive en tête avec 20 voix. Jean-Philippe Tanguy du RN, 11 voix. Véronique Louwagie de LR, 8 voix. Et Charles de Courson du petit groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, 2 voix. Suspense. Pendant le deuxième tour de scrutin, le bruit court que les voix de droite et du RN pourraient se porter sur Charles de Courson, qui l'emporterait alors sur le fil. Mais finalement, pas de coup de Trafalgar, car Charles de Courson se retire à l'issue du second tour. Et c'est donc Éric Coquerel qui prend la tête de la prestigieuse commission des finances au troisième tour. Prestigieuse parce qu'elle est dotée de pouvoirs de contrôle et d'enquête importants.
Marie-Bénédicte Teller en direct de l'Assemblée nationale pour RTL et vous entendrez la première réaction d'Éric Woerth qui était contre que le fait que cette commission, cette présidence de commission revienne à la France insoumise. Il sera notre invité dans une dizaine de minutes.
Elisabeth Borne prononcera mercredi son discours de politique générale.
C'est une info RTL. On pensait au départ que ce serait mardi la première ministre qui recevait ce matin à Matignon la ministre de la Santé et le professeur Braun chargé de la mission flash sur les urgences. 41 propositions concrètes pour permettre aux hôpitaux de passer l'été. On saura demain quelles sont celles qui sont retenues. Autre difficulté en perspective pour cet été, les prix de l'essence. Total Energy annonce une ristourne de 12 centimes le litre, mais uniquement dans les stations-service des autoroutes. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Ça va encore valoir la peine de sortir de l'autoroute pour faire le plein ?
Oui, mais il va falloir sortir vos calculettes avant cette annonce aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Sortir de l'autoroute vous fait réaliser de belles économies puisque l'écart moyen de prix se situe entre 15 et 20 centimes le litre, tout simplement parce que les stations autoroutières ont une obligation de service, rester ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cet écart, j'ai pu le constater ce week-end en parcourant la Nationale 7, 1000 km entre Neuilly et Menton. Par endroit, le gazole affichait sur autoroute près de 2,40 € versus 2,10 € sur Nationale. Il y a 30 centimes d'écart. Donc, même avec la ristourne, vous êtes largement gagnant. Mais attention, ça dépend vraiment des endroits et des jours, puisque le prix change quotidiennement. Là, je viens de regarder, par exemple, toujours le long de cette route des vacances sur la 7, à Valence, le gazole affiche 2,21 € sur autoroute contre 2,08 € en sortant. Autrement dit, après la ristourne, vous allez gagner à peine 2 centimes. Si on doit résumer pour nos auditeurs...
On part en vacances avec sa calculatrice.
Voilà. Non, mais sortir de l'autoroute, vous serez toujours gagnant à condition de ne pas aller au-delà de 2-3 km. Sinon, ce que vous allez gagner à la pompe, vous allez le perdre en consommation de carburant. Et dernier conseil, il y a de nombreuses applications sur votre smartphone qui vous permettent de comparer les prix qui sont renseignés en temps réel par les automobilistes.
Merci à vous Christophe pour tous ces conseils. Vous voulez dire quelque chose, Pascal ?
Non, Total gagne 15 milliards par an. Moi, je voudrais savoir si Total baissait de 50 centimes d'euros chaque litre d'essence vendue, combien Total ferait de bénéfices en moins à la fin de l'année ?
Alors là, il va falloir encore sortir la calculette.
Vous avez quelques heures pour plancher.
Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir ça. Mais je pense que c'est compliqué, sans doute. Oui.
Conséquence en tout cas, entre autres, de cette hausse des prix des carburants, l'inflation qui accélère encore un peu plus 5,8% sur un an en juin, des chiffres publiés par l'INSEE ce matin.
Suite et fin du sommet de l'OTAN.
Et pour la première fois, la Chine est pointée du doigt, présentée comme l'un des défis des prochaines années. Ça veut dire quoi, Julien Fautra ?
Eh bien, ça veut dire que les pays de l'OTAN, les 30, aujourd'hui considèrent que la Chine entrave l'ordre international. Elle défie nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs, écrit l'OTAN. Qu'y a-t-il derrière cela ? 1. La Chine ou des groupes chinois mèneraient des cyberattaques régulières contre des sites stratégiques de l'industrie de défense, les réseaux de téléphone, etc. Ce sont des accusations fréquentes. 2. La Chine vient à nous. Elle investit dans des infrastructures en Méditerranée, dans les Balkans, en Afrique. Son influence n'est pas circonscrite au Pacifique. 3. Surtout, la Chine joue un jeu trouble avec la Russie, une alliance avec Vladimir Poutine dont on ne connaît pas bien les contours ni jusqu'où elle va, mais une alliance qui inquiète les Occidentaux ici en pleine guerre sur le continent européen. Les Chinois ont tout de suite réagi, reprochant à l'OTAN de salir, le mot est dur, salir la Chine. Déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. C'est un changement radical, Amandine, parce que la Chine était jusque-là considérée comme un partenaire. C'est désormais de l'histoire ancienne.
Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Madrid. Et puis de la Formule 1, et je vous le disais, Lewis Hamilton pourrait bien ne pas prendre le départ chez lui dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne. Nouvel épisode de ce qu'on pourrait appeler le Bijou Gate. À partir de demain, les pilotes seront en effet priés de laisser leurs montres et bijoux au vestiaire, Jean-Michel Rascol.
Oui, les pilotes avaient obtenu une exemption. Les piercings de Lewis Hamilton étaient trop difficiles à retirer. La FIA, après avoir patienté, entend faire appliquer ce week-end ces deux règles, la dérogation accordée expirant fin juin. Plus de bijoux ni d'alliances pour éviter des brûlures. L'accident de Romain Grosjean est cité en exemple pour indiquer que s'il venait à s'accrocher à la voiture, les bijoux pourraient causer des problèmes lors de l'extraction d'un pilote. Il est aussi demandé de porter des sous-vêtements inifugiés, ce qui avait amené Sébastien Vettel à apparaître à Miami avec un caleçon par-dessus sa combinaison. Les pilotes aiment la dérision. Il s'expose aujourd'hui à des sanctions. $50 000 pour le port d'une alliance, $250 000 si un pilote monte dans sa F1 avec une montre. La menace de l'exclusion est même avancée. Un bras de fer avec ou sans bracelet qui oppose les pilotes à la nouvelle direction contestée de la FIA, la Fédération internationale du sport automobile. Alors rendez-vous au premier virage demain à l'occasion des essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.
On va surveiller les mains, les bracelets et autres. Merci à vous, Jean-Michel.
C'est vrai que porter une alliance parfois peut coûter cher. Nos deux sujets qui arrivent dans une seconde.
Ça sent le vécu.
Pas de, le Covid et la nouvelle vague ne gâchera pas notre été. Je vous en prie.
Ah ben vous me tendez des perches.
Je vous en prie. 12h42.
Montrez vos mains.
12h42, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, j'allais dire, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote comme elle s'y est engagée. C'est donc quelque part un mieux par rapport à ce à quoi on a pu assister hier. Quand ça se passe comme ça, la plus forte opposition de l'Assemblée se retrouve effectivement en capacité d'avoir les postes qui lui reviennent.
Les premiers mots d'Éric Coquerel après son élection à la tête de la présidence de la Commission des Finances. C'était il y a quelques minutes, on vous le disait, c'est lui le député de la France Insoumise qui hérite donc de ce poste ô combien convoité. Comme promis, on reviendra sur le Covid dans un instant, mais d'abord, parole à vous Éric Woerth, bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien ministre du budget, élu hier questeur, on le rappelle, à l'Assemblée nationale. Peut-être une première réaction après l'élection donc, d'Éric Coquerel. On se souvient que vous ne vouliez pas voir la France insoumise à la tête de cette commission des finances.
Écoutez, c'était en tout cas une préférence. J'aurais préféré que ce soit, par exemple, le candidat de LR qui soit la tête de la présidence de la commission des finances. Mais la composition de l'Assemblée l'empêchait. Et ce vote reflète la composition de l'Assemblée. La composition de l'Assemblée, elle reflète le vote des Français. Donc, ça
c'est
semble...
pas exactement ce la réalité. C'est parce que la majorité a choisi de donner une commission à l'opposition. Et c'est une pratique que les institutions ne prévoient pas. C'est Nicolas Sarkozy qui avait imaginé ça en 2007.
Pascal Pro, ça marche pas comme ça. Non. C'est pas la majorité qui a prévu de donner une commission à l'opposition. C'est le règlement de l'Assemblée. Après, effectivement, une modification du règlement de l'Assemblée par Nicolas Sarkozy, par l'Assemblée elle-même. Mais c'était une des propositions institutionnelles du président de la République. Donc ça, c'est le règlement de l'Assemblée. Après, qui vote, c'est un autre sujet. C'est à l'Assemblée, évidemment, d'en déterminer. Moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai pensé, je l'ai dit, c'est que c'est pas à la majorité de choisir son opposition. Il y a un côté assez... ce serait trahir l'état d'esprit, au fond, du texte du règlement. Donc le règlement, c'est l'opposition. Après, l'opposition s'organise pour choisir ou tout simplement pour voter au troisième tour pour l'opposition la plus nombreuse. Mmh. Que la majorité intervienne, ça veut dire qu'on tord la composition même de la commission et que la majorité commence à se mêler des affaires de l'opposition.
Mais pourquoi cette commission, elle est aussi stratégique, Éric Woerth ?
Donc c'était très important, je pense, que la majorité ne prenne pas part au vote. Non pas qu'elle n'avait pas une préférence, sans doute, mais je pense qu'il fallait que les oppositions, qu'on aille jusqu'au bout de la logique de cette idée d'une commission des finances réservée à l'opposition. Alors c'est un poste important, je l'ai occupé pendant 5 ans, et c'est un poste important avec des pouvoirs un peu particuliers au président de la commission des finances. Par exemple, l'accès, on ne peut pas vous empêcher d'accéder à des dossiers fiscaux. Le secret fiscal ne peut pas vous être imposé, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers.
Et concrètement, du coup, quel est le risque, pardonnez-moi, pour que les auditeurs comprennent bien?
Vous pouvez aller vérifier ou aller consulter le dossier fiscal dont dispose l'administration pour monsieur un tel ou madame un tel, ou pour tel et tel.
Disons les choses, par exemple, Éric Coquerel et la France Insoumise, qui ont comme cible les grands patrons en France et les grands patrons du CAC 40. Monsieur Coquerel, demain matin, il peut demander les fiches fiscales de tous les grands patrons du CAC 40.
Oui, bien sûr, il peut le faire. Alors après, il ne peut pas l'utiliser normalement, puisqu'il ne peut pas l'utiliser nominativement. Mais enfin, on voit bien que la France Insoumise nous a habitués à beaucoup de gymnastique dans ce domaine-là.
Quand vous dites qu'il ne peut pas l'utiliser, pour qu'on comprenne bien, il ne peut pas s'en servir.
Pourquoi le secret fiscal ne peut pas être opposable au président de la commission des finances? C'est pour vérifier que la loi fiscale est une bonne loi ou une mauvaise loi, pour faire évoluer au fond la législation. C'est ça le rôle du Parlement, ou pour modifier la législation, ou alors pour contrôler l'action
du
gouvernement.
Mais il y a une trace
de ce qu'il
fait.
Le crédit d'impôt recherche, il faut aller regarder si le crédit d'impôt recherche concrètement, il est utilisé comme il faut. Une autre affaire est de se prendre pour un service de contrôle fiscal.
Pardonnez-moi, il y a une trace de ce qu'il fait. C'est-à-dire que lorsqu'il demande un dossier, par exemple, si un dossier ad nominem, il dit je veux la fiche fiscale de monsieur Intel. Il y a une trace de ça?
Bien sûr, l'administration conserve cette trace. Et d'ailleurs, s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Il ne peut pas y aller en catimini. Donc, heureusement, les travaux de la commission sont publics. Et il l'utilise dans le cadre d'un travail. S'il l'utilisait, parce que moi, je ne l'ai jamais utilisé. Mais s'il utilisait ce pouvoir, il le ferait dans le cadre d'un travail qu'il a décidé de mener. Donc, on peut aller chercher des exemples dans des dossiers, un peu comme si on faisait des statistiques. Pourquoi pas? Mais tout ça ne peut pas être nominatif. Moi, j'ai évidemment des doutes sur la capacité de LFI à respecter cela. Mais c'est comme ça. Les Français ont souhaité élire un groupe extrêmement important de gauche, avec l'extrême gauche à sa tête. Ils ont présenté un seul candidat global avec une plateforme électorale, même s'ils sont plusieurs groupes dans l'Assemblée nationale. Ils sont partis sous la même bannière et ils ont décidé d'un seul candidat pour les représenter numériquement, arithmétiquement. Ils étaient plus nombreux ou les plus nombreux en dehors de la majorité. Et la majorité n'avait pas décidé de savoir si c'était la NUPES, si c'était LR.
Monsieur Woerth, on a des questions à vous poser.
Éric Coquerel, on l'a entendu, se félicitait de son élection et il dit que c'est un juste retour des choses après ce qui s'est passé hier. La France Insoumise a dénoncé de sordides combines, je cite leurs mots, après donc l'élection hier de deux vice-présidents du Rassemblement National. Les députés de la majorité ont préféré voter RN que NUPES?
Non mais c'est parce que LFI tord elle-même beaucoup la vérité. La vérité, c'est que dans la répartition des postes, parce que tout ça apparaît comme un peu dérisoire par rapport aux problèmes politiques qui nous attendent, mais dans la répartition des responsabilités à l'Assemblée nationale, il est arrivé de façon extrêmement régulière que l'ensemble des groupes s'entendent.
Mais justement, il y a des arrangements.
Pour qu'il y ait une répartition. Mais c'est pas des arrangements. C'est pas des arrangements, puisque vous avez accès à un certain nombre de responsabilités rejetée en fonction de votre poids dans l'Assemblée nationale. Il y a même dans le règlement un nombre de points qui est affecté dans ce domaine-là. Donc tout ça est très transparent et extrêmement, extrêmement précis.
Alors là, en l'espèce, il n'y a pas eu d'arrangement.
Et donc, très souvent, il y avait une négociation, un compromis, une négociation qui donnait autant de noms que de postes disponibles. Et donc
Monsieur
l'Assemblée,
Wirth,
elle votait là-dessus. Ça n'a pas été
Wirth,
possible à cause de LFI. Et donc, à ce moment-là, un certain nombre de groupes se sont organisés pour,
Wirth,
voter d'une façon collective.
En l'espèce, dans la commission des finances, il n'y a pas eu d'arrangement. Et là, vos électeurs peuvent vous reprocher d'avoir préféré laisser passer Éric Coquerel. Mais si vous me permettez, j'ai des comptes. 11 voix Rassemblement National, 8, si c'est un problème de décompte, parce que 11 plus 8 plus 2, ça fait 21. Donc si ces 21 voix se mettent ensemble, mais M. Coquerel n'est pas élu. Donc
c'est une très mauvaise lecture de la
chose. Mais c'est possible, mais tout le monde fera celle-là. C'est une... Et vos électeurs...
Mais attendez, j'ai le droit de défendre le contraire.
Mais je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas terminé la phrase. Vos électeurs, ils peuvent vous reprocher, de ne pas vous être mis d'accord avec le Rassemblement National et Charles de Courson pour faire barrage à Éric Coquerel.
Mais pas du tout. On ne fait pas barrage à un député. Les députés sont égaux. C'est les Français qui les ont nommés. Il n'y a pas des
11 plus 8 plus 2, ça fait 21. Oui, et si vous vous mettez d'accord, c'est 21 voix. Monsieur Coquerel n'est pas élu.
Monsieur, oui, mais le groupe NUPES a fait 20 voix ou 21 voix.
20 voix NUPES. Et là, il y en a 21 de l'autre côté.
Non, vous ne pouvez pas. Mais alors, vous allez demander au patron de décider qui est le syndicat chez lui ? C'est ça que vous voulez ?
Je pense que vos électeurs, je le répète, souhaiteraient peut-être, en l'espèce, que vous ayez eu un accord avec le Rassemblement National.
La démocratie jusqu'au bout. Non, ça ne servait à rien. Et puis, je pense qu'il faut faire très attention.
Vous préférez donc Monsieur Coquerel à vous préférez Monsieur Coquerel à Monsieur Tanguy ?
Non,
mais c'est votre choix.
Vous avez une façon, vous avez une manière. Je pense que tout le monde l'interprétera comme ça. Est-ce que vous voulez vous asseoir sur la composition de l'Assemblée nationale ? La composition de l'Assemblée nationale, c'est les Français qui l'ont voulu. Il y a toute une série de groupes très importants. Ce poste-là doit revenir à un élu de l'opposition. Ce n'est pas à la majorité de désigner quelle est sa meilleure opposition. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ça aurait été, à mon avis, une grave erreur que de le faire. La composition de l'Assemblée, elle est compliquée. Elle peut être... je la combats, mais elle est ce qu'elle est
Sauf aujourd'hui. Que vous refusez toute alliance possible avec le Rassemblement National. Mais c'est votre choix. Merci en tout cas, monsieur Wirth. Et Éric Coquerel est donc élu. Il est 12h53. La pause, on parle du Covid.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Parce que ça va gâcher l'été. Non, ça ne va pas gâcher l'été, parce que nous sommes vaccinés. Finalement, ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement, c'est avec le nombre de formes sévères et de formes graves, et le retentissement sur le système de soins. Et je vous dis, je ne devrais pas le dire, mais il faut bien quand même se mouiller de temps en temps, je crois que nous allons tenir.
Il faut bien le reconnaître, on a rarement entendu le président du conseil scientifique aussi optimiste.
Qui n'avait pas de masque ce matin d'ailleurs dans le studio.
Jean-François Desprécy.
Et c'est symbolique.
Qui était l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure sur RTL. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Alors on va donner quelques chiffres. 124 724 nouveaux cas hier. 83 400 de plus chaque jour en moyenne en une semaine. Et Jean-François Desprécy l'a dit, la hausse va se poursuivre. Le conseil scientifique table sur un pic fin juillet et pourtant il reste serein. Pourquoi ?
Alors d'abord parce que ce virus, certes beaucoup plus transmissible, n'est pas plus sévère que les précédents variants et les symptômes pas plus violents. Ensuite, Jean-François Delfraissy le dit, parce que nous sommes bien vaccinés. Aujourd'hui, 74% des 18 ans et plus ont reçu leur premier appel, la fameuse troisième dose. On est à 80% chez les plus de 65 ans, ce qui devrait permettre aux hôpitaux de ne pas être débordés par un afflux de patients souffrant de formes graves ou sévères. Il y a quand même une inquiétude, c'est que cette nouvelle vague va arriver à un moment très critique pour les hôpitaux déjà mal en point, avec des effectifs très réduits.
Et c'est pour ça que Jean-François Delfraissy encourage d'ailleurs les plus fragiles à faire leur appel, la fameuse quatrième dose.
Oui, ce sont ces patients qui occupent en majorité les lits à l'hôpital. On estime qu'ils sont 8 millions, fragiles ou âgés, susceptibles justement de faire une forme grave. Là, c'est vraiment impératif pour limiter au maximum les conséquences de la vague actuelle, et cela sans attendre la rentrée, alors qu'on espère, c'est vrai, des vaccins plus efficaces, mais pas avant octobre. Alors, les autorités sanitaires avaient lancé l'alarme il y a une semaine, au vu de la mobilisation très faible de toute cette population, en gros les plus de 60 ans et les immunodéprimés, un quart seulement ayant reçu cette quatrième dose. Il semble que cet appel commence à être entendu. Exemple, plus de 230 000 personnes de plus de 80 ans se sont fait vacciner ces 10 derniers jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, 40% d'entre eux sont protégés contre 30% il y a 10 jours. Et cela devrait se poursuivre avec une augmentation très nette des rendez-vous pris sur Doctolib.
L'autre débat du moment, il concerne le masque, Odile. Et Jean-François Delfrécy n'est pas favorable à une obligation du masque, notamment dans les transports.
Non, le président du Conseil scientifique est sur la même ligne que le gouvernement. Pas d'obligation, car dans cette crise, assure-t-il, il faut être évolutif. Des recommandations donc, et un appel à la responsabilité de chacun, surtout dans les lieux clos, vous le disiez, les transports en commun notamment. Un exemple pour illustrer ça, avec le taux d'incidence très élevé que l'on connaît actuellement en Île-de-France, si vous vous retrouvez dans une rame ou dans une pièce fermée avec 50 personnes, eh bien vous êtes sûr qu'il y a au moins une personne positive. Et comme le virus se transmet extrêmement facilement, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Merci Odile, démonstration parfaite.
Merci Odile, je vais chercher mon masque à l'instant.
On n'est pas 50 dans la pièce, tout va bien.
Oui, mais on est des millions qui nous écoutent.
Oui, mais ils sont loin.
Il est 12h59.
À tout de suite avec les auditeurs. RTL Midi.